Roi Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 22 août 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Tchad, attaque vendredi dernier dans l'Est contre une colonne de l'unité d'élite antiterroriste de l'armée.
Au Gabon, des membres de l'opposition proches de Jinping ont fait hier leur entrée au gouvernement.
En Angola, élection générale demain, elle devrait marquer la fin du règne du président José Eduardo dos Santos.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a dévoilé hier sa nouvelle stratégie en Afghanistan.
En Espagne, la police a confirmé avoir tué Younes Abou Yacoub, dernier membre encore en fuite de la cellule djihadiste responsable des attentats en Catalogne.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, une colonne de 6 véhicules de l'unité d'élite antiterroriste basée à Onyanga-Kébir dans l'Est a été attaquée vendredi dernier lors d'une patrouille de routine par les éléments d'un mouvement rebelle. Selon notre correspondant sur place, André Kodmajingar, l'attaque a eu lieu à quelques kilomètres de la frontière tchado-libyenne, faisant plusieurs victimes et des dégâts matériels. Ce violent accrochage se serait soldé par la destruction de 3 véhicules de l'unité antiterroriste de l'armée, selon un communiqué du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, le CCMSR, qui a revendiqué cette attaque.
Ce mouvement politico-militaire signale aussi plusieurs morts, dont 2 officiers supérieurs, ainsi que plusieurs blessés. Le CCMSR déplore de son côté 1 mort et plusieurs blessés. Notre correspondant n'a pas pu joindre les autorités militaires tchadiennes pour une réaction.
Au Gabon, des membres de l'opposition proches de Jinping ont fait hier leur entrée au gouvernement à la suite d'un léger remaniement. Le président Ali Bongo a aussi restauré le poste de vice-président. Des détails avec Eric Manirakiza.
La vice-présidence de la République revient à l'ancien candidat à la dernière présidentielle, Pierre Claver Maganga Moussavou. Lemezu Obiang, l'ex-directeur de campagne de Jinping, a hérité du Conseil économique et social. Estelle Ondo, déjà exclue de l'Union nationale, a été nommée au transport. Patrick Eyogo Edzang, à l'eau et énergie, et doit faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Le Premier ministre n'a pas changé, de même que les ministres de la Communication et porte-parole, des Affaires présidentielles et de la Défense nationale, ainsi que l'économie, considérés comme les poids lourds de l'équipe Bongo. Le gouvernement compte 38 membres contre 40 dans le précédent. Il traduit les conclusions du dialogue politique rejeté par Jinping, qui se proclame toujours le président élu. Vendredi, son appel à la désobéissance civile n'a pas été suivi. Des élections législatives doivent avoir lieu en 2018.
L'Angola vote demain pour des élections générales qui devraient marquer la fin du règne du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Salwa Jafari.
Ces derniers jours de campagne à Luanda, les meetings politiques se succèdent dans une atmosphère chargée. Dernière ligne droite pour convaincre un électorat qui semble hésiter à tourner le dos au parti au pouvoir, le MPLA devrait une nouvelle fois l'emporter et installer son candidat et dauphin désigné, l'ex-ministre de la Défense João Lourenço, dans le fauteuil de chef d'État. La coalition des partis d'opposition, la CACAC, a tenu sa dernière réunion dimanche. Abel Chivukuvuku, transfuge de l'UNITA, a encore martelé un message pour le changement.
42 ans de souffrance, 42 ans de frustration, 42 ans de mauvaise gouvernance, 42 ans de corruption. C'est pourquoi nous devons changer radicalement la qualité de vie des citoyens angolais.
Enfin, Isaias Samakuva, à la tête de l'UNITA, principal parti d'opposition, espère aussi prendre sa revanche sur Dos Santos, qui prend sa retraite après 38 ans de règne.
En Tanzanie, 32 hommes poursuivis pour avoir brûlé vives 5 femmes qu'ils accusaient d'être des empoisonneuses ont comparu lundi devant un tribunal du nord du pays, a-t-on appris de sources judiciaires. Les accusés, âgés de 18 à 75 ans et parmi lesquels des responsables administratifs locaux, ont participé lundi à une audience de préparation à leur procès qui doit s'ouvrir le 4 septembre. Certains d'entre eux ont plaidé coupables, d'autres non coupables.
À Khartoum, Martha Ruedas, la coordonnatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, a appelé lundi les donateurs à accroître l'aide humanitaire au Soudan. L'organisation internationale ayant reçu moins d'un quart des 804 millions de dollars dont elle a besoin. Elle a déclaré lors d'une conférence de presse qu'environ 2,5 millions de personnes ont reçu une aide humanitaire dans le pays depuis le début de l'année. L'ONU a ajouté « Madame Ruedas va devoir ajuster le nombre de personnes bénéficiaires de cette assistance », expliquant qu'il est difficile de définir des priorités compte tenu des ressources limitées. Des centaines de milliers de Soudanais vivent toujours dans des camps après avoir été déplacés par un conflit sanglant au Darfour, dans l'ouest du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé hier soir dans un discours à la Nation sa nouvelle stratégie pour l'Afghanistan et l'Asie du Sud, compte rendu de Jean-Roger Bion.
Les Américains, a dit M. Trump, sont fatigués de l'absence de victoire dans la plus longue guerre de l'histoire américaine. Mais a-t-il poursuivi, un retrait précipité des troupes américaines créerait un vide que combleraient rapidement les terroristes.
We must achieve an honorable and enduring outcome worthy of the enormous price. That so many have paid.
Pour le président Trump, les États-Unis doivent chercher un résultat honorable et durable digne des sacrifices extraordinaires qui ont été consentis, particulièrement les vies sacrifiées. Selon lui, les menaces sécuritaires en Afghanistan et généralement dans la région d'Asie du Sud sont immenses. Cette nouvelle stratégie, a expliqué M. Trump, inclura une approche régionale pour l'Asie du Sud, impliquant pour les États-Unis la recherche de relations améliorées avec l'Inde. Quant au Pakistan, Washington va adopter une position plus dure vis-à-vis de ce pays qu'il a accusé d'abriter des agents du chaos, de la violence et de la terreur. Le président Trump n'a pas spécifié une augmentation des niveaux de troupes en Afghanistan, déclarant « Nous ne parlerons pas du nombre de soldats. Les ennemis de l'Amérique ne doivent jamais connaître nos projets. »
La US Navy a ordonné une pause opérationnelle immédiate de toutes ses flottes dans le monde après la collision entre le destroyer lance-missile John McCain et un pétrolier lundi à l'est de Singapour près du détroit de Malacca. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 10 marins américains portés disparus en collaboration avec les autorités locales. 5 autres marins ont été blessés dans cette collision qui a endommagé le destroyer. Le chef des opérations de la marine américaine a également ordonné une vaste enquête sur les causes de ce qu'il a appelé une série d'incidents dans le Pacifique. C'était la seconde collision de ce genre en autant de mois.
En Espagne, la police autonome de Catalogne a confirmé lundi avoir tué Younes Abouyacoub, dernier membre encore en fuite de la cellule djihadiste responsable des attentats de la semaine dernière. Younes Abouyacoub, un Marocain âgé de 22 ans, conduisait la camionnette qui a fauché des piétons jeudi dernier à Barcelone, tuant 13 personnes et faisant 120 blessés, dont 9 se trouvaient toujours dans un état critique lundi. La police catalane lui a également attribué un 14e décès, celui d'un homme dont il a volé la voiture dans sa fuite hors de la capitale catalane. Sur les 11 autres membres de la cellule, 7 ont trouvé la mort et 4 ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ils seront traduits devant la Haute Cour de justice de Madrid, compétente pour les affaires de terrorisme.
Des millions d'Américains ont pu observer l'éclipse solaire totale qui a traversé 14 États, une première depuis près de 100 ans. Les employeurs ont perdu des millions de dollars à cause de l'absence au bureau pour leurs employés déterminés à regarder l'éclipse. Mais pour d'autres, ce sont des millions de dollars en gains. Abdourahman Dia joint Gibbs Doubé, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique en Corée Lune du Sud, l'un des États ayant vécu l'éclipse totale d'hier.
L'éclipse totale ici dure 2 minutes et 20 secondes. Beaucoup de personnes ici sont très excitées et beaucoup de commerces se sont fait beaucoup d'argent avec ça. Le tourisme connaît un boom. Je voulais faire une réservation pour une chambre d'hôtel, mais depuis jeudi, il n'y avait plus de chambres disponibles. Donc, depuis la semaine dernière, il était devenu impossible de trouver une chambre par ici. C'est pourquoi je me suis retrouvé en dehors de la ville. Mais il y a d'autres qui ne sont pas très emballés car ils disent avoir peur de ce phénomène. Ils ont vraiment peur.
So some other people are not excited at all. They're saying they're scared of the moon. So they're really, really scared.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Anastasie Toudièche.
En République démocratique du Congo, plus de 150 employés de la Bralima, filiale congolaise de Heineken, le numéro 2 mondial de la brasserie, viennent d'obtenir 1 300 000 dollars de compensation pour licenciement abusif il y a 15 ans. Ces licenciements ont eu lieu pendant la guerre civile de 1998-2003 à Bukavu, au sud Kivu, alors occupé par le Rassemblement congolais pour la démocratie, le RCD. L'Afrique a accueilli 57,8 millions de touristes en 2016, soit 4,4 millions de plus qu'en 2015. Cela représente seulement 5% du total de voyageurs dans le monde, mais leur nombre pourrait atteindre les 134 millions en 2030. C'est ce qu'estime l'Organisation mondiale du tourisme dans son rapport annuel publié le 15 août. Au Cameroun, à mi-chemin de l'exercice 2017, la masse monétaire s'établit à 41 132 milliards de francs CFA, d'après des chiffres publiés par le Comité monétaire et financier national. La croissance réelle s'établit à 4,2%, ce qui est inférieur aux prévisions initiales de 5,7%. Le pays subit les contre-coups d'une conjoncture économique difficile due à la dépréciation des cours des produits du pétrole et des produits de base, ainsi que le défi sécuritaire avec les activités du groupe Boko Haram dans l'extrême nord du pays.
À présent, les sports avec Nicolas Pino. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Afro-Basket Dames se poursuit au Mali.
Après la journée de repos d'hier, les basketteuses reprennent le chemin des parquets. Le point tout de suite avec Amdine Sy sur place pour VOA Afrique.
Après 24 heures de repos, les basketteuses vont redescendre sur le parquet du Palais des Sports Salamata Maïga de Bamako pour le compte de la 4e journée de l'Afro-Basket féminin avec au programme 6 rencontres alléchantes. Le Sénégal, champion en titre, va ouvrir le bal en affrontant l'Égypte. Ce sera à partir de 9h30. Les Lions de la Teranga tenteront de conserver leur invincibilité face aux meilleures attaques de ce tournoi. Ce sera le cas aussi du Nigeria. Le leader de la poule B fera face à la Guinée. Le troisième match de ce groupe opposera la République démocratique du Congo au Mozambique. Dans la poule A, la Tunisie fera face au Cameroun. La République centrafricaine va défier le pays organisateur, le Mali. Le dernier match de cette journée opposera l'Angola à la Côte d'Ivoire. Ces 6 rencontres permettront de savoir les équipes qui vont compléter le tableau des quarts de finale. Amédine Sy, depuis Bamako, pour VOA Afrique.
Football, l'Afrique du Sud dévoile sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2018.
En ligne de mire, la double confrontation face au Cap-Vert, ce sera les 1er et 5 septembre prochains. Le match aller à Praia, le match retour à Durban. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Stuart Baxter, a convoqué 25 joueurs pour une liste comportant 4 changements. Les retours de Gould et de Cerrero notamment. On note aussi les présences de Keegan Dolly et de Kermit Erasmus.
Barrage retour de la Ligue des Champions à suivre demain soir.
Oui, avantage pour Naples qui se déplace tout à l'heure à Nice avec 2 buts d'avance après le succès des Napolitains à l'aller. Côté niçois, les deux joueurs phares du club, Mario Balotelli et la recrue néerlandaise Wesley Sneijder, devraient être alignés. À suivre aussi Séville qui l'avait emporté à l'aller en Turquie 2-1 contre l'Istanbul Başakşehir. Mercredi, Liverpool recevra Hoffenheim après avoir gagné 2-1 à l'aller également.
On parle de transfert à présent.
Samir Nasri dans l'impasse à Manchester City où le meneur de 30 ans est arrivé en 2011. Il s'est engagé pour 2 ans avec Antalya Sport. L'international français, plus appelé en sélection depuis 2013, était arrivé dimanche dans la station balnéaire du sud de la Turquie après avoir été prêté la saison dernière au FC Séville par l'entraîneur Pep Guardiola qui ne compte plus sur lui chez les Citizens. Quant au Camerounais Samuel Eto'o, il devrait rester en Turquie malgré les rumeurs de départ. Enfin, autre transfert en Italie, Ismaël Benacer va découvrir la Série B. L'international algérien de 19 ans a quitté Arsenal afin de s'engager avec Empoli jusqu'en 2021.
Nadal retrouve les sommets du tennis mondial.
Rafael Nadal a officiellement retrouvé à 31 ans la tête du classement ATP qu'il avait cédé en juillet 2014. L'Espagnol était assuré de détrôner le Britannique Andy Murray depuis le forfait de Roger Federer avant le Masters de Cincinnati. Chez les dames, l'Espagnol Garbine Muguruza retrouve la 3e place du classement WTA au lendemain de sa victoire à Cincinnati. Quant à la finaliste malheureuse, la Roumaine Simona Halep, elle est toujours 2e de ce classement, dont la 1ère place est toujours occupée par la Tchèque Karolina Plíšková. Et ce, à une semaine de l'US Open, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. République démocratique du Congo, la diaspora congolaise se mobilise pour sortir de l'impasse politique. Le mandat du président Joseph Kabila a expiré et il n'y a pas d'élection en vue. Un directoire de transition sans Kabila a été mis en place. Il a tenu une conférence à Lille, en France, pour discuter des mesures d'urgence pendant cette transition. Idriss Fall a joint à Lille Mike Justin Kabondi, membre de ce directoire.
Tout d'abord, nous voulons relancer notre économie en créant des emplois. Il faut que ces emplois soient sécurisés. Il faudra que les investisseurs trouvent un climat d'affaires apaisé. Il faudra que nous mettons de l'ordre pour endiguer toute corruption, parce qu'il est inacceptable qu'un ministre qui est nommé lundi, le vendredi, il devient milliardaire. Ça, nous ne voulons plus accepter. Au niveau social, la population a été oubliée. Au niveau de la santé, au niveau de ses infrastructures, au niveau de la politique de gestion, au niveau des partenariats, tous les pays qui soutiennent la RDC aujourd'hui au niveau humanitaire, cet argent sert encore toujours les gens du pouvoir. Les contrats qui sont signés sont toujours dans les mains des mêmes personnes. Ce n'est pas possible et c'est inacceptable.
Au plan politique, qu'est-ce que vous allez faire de Kabila s'il refuse de partir?
Le message, il est très clair. La population est décidée, déterminée, parce qu'il y a l'inconstitutionnalité. Les institutions sont caduques. La présidence, le mandat a été déchu. Le Parlement a été expiré depuis 10 ans. Les gouverneurs sont expirés. Mais dans quel pays on peut vraiment soutenir une population avec des institutions caduque. Donc le pouvoir, il est dans la rue. Donc le DNT, nous sommes décidés de venir au pouvoir par tous les moyens. Mais nous sommes un pouvoir déjà pacifique, ouvert à toute discussion avec tous nos compatriotes, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre. Nous allons collaborer avec tous les pays que moi j'appelle les amis du Congo pour que ce pays redémarre au niveau économique et que son peuple soit honoré au niveau social. Degré ou de force, il faudra que Kabila part et toute la communauté internationale nous soutienne dans cette démarche. Et maintenant, il est grand temps pour lui de dire « oui, il faut que je pars paisiblement ou alors ça sera la force ».
Mais il y aura encore des morts, on le craint.
Vous savez, ça fait combien d'années, en 16 ans, on a compté combien de millions. Mais dans un premier temps, nous ne voulons pas qu'il y ait de sang. Ce sont eux, ces gens-là, qui sont au pouvoir, qui s'accaparent et qui insistent de rester au pouvoir par force, en créant l'insécurité, en provoquant des violations de droits de l'homme, en ouvrant toutes les prisons sous prétexte de créer l'insécurité, ce sont eux qui veulent verser du sang. Et aujourd'hui, le peuple congolais en est marre, il est fatigué et il dit non, trop, c'est trop. Et tout le monde est prêt au péril de sa vie pour que justice soit faite.
Mike Justin Kabondi, membre du directoire de transition sans Kabila.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Des milliers de Congolais originaires du Poule fuient les violences qui sévissent dans cette région pour trouver refuge dans la capitale Brazzaville. Ils vivent dans des conditions très difficiles, nous dit notre correspondant sur place, Nguela Ngusu.
Cela fait déjà beaucoup de mois que les personnes fuyant la guerre dans le Poule arrivent à Brazzaville. Elles laissent derrière elles des villages en ruine. Elisabeth Loukou vient de Mbanzandunga district.
Je suis paralytique. En fuyant le village, j'ai abandonné mon tricycle en chemin. Là, je ne peux pas me promener pour chercher de quoi manger. Je suis quand même une personne, on souffre et on est sans assistance.
André Mayela, du village Kimpanzu 1, se retrouve à Brazzaville avec toute sa famille après avoir tout perdu.
C'est en pleine nuit que les ninjas sont venus nous faire sortir de nos maisons. Quelques temps après, le village a été brûlé. Nous avons fui dans les forêts avant de regagner Brazzaville, où un parent nous héberge. À Brazzaville, où ils sont arrivés, ils doivent se débrouiller pour survivre. L'assistance humanitaire des pouvoirs publics s'est fait attendre. Les agences des Nations Unies peinent à collecter les fonds. Antoinette Bavizibio de Kimpanzu 1 raconte sa misère à Brazzaville.
Depuis notre arrivée ici à Brazzaville, nous vivons difficilement. Il faut vendre du bois de chauffe. Nous ne gagnons malheureusement pas grand-chose pour nourrir la famille. Nous souffrons.
Les familles d'accueil n'en peuvent plus et appellent à l'aide.
Surtout le problème de tous les jours, il faut qu'il y ait à manger. Là, c'est les autres dorment sur terre. Hein. Regardez ma maison n'est pas encore finie. Bon. Hein. Vraiment, on demande une aide, surtout dans Brazzaville et surtout le poule.
Selon la société civile, les sinistrés du poule arrivent toujours. Gaspard Mienantima organise leur enregistrement dans les quartiers sud de Brazzaville.
Nous sommes arrivés aux environs de 2500 que nous avons pu recenser. Et là, on ne recensait que des grandes personnes. La majorité vit dans le 8e arrondissement Madibou. Et ils continuent à venir. Tout ça, c'est pénible, c'est infernal.
Un comité d'ONG a lancé un SOS à la communauté nationale afin de venir en aide à ces personnes. Docteur Alex Nzaba.
Nous avons pris contact avec les communautés catholiques, protestantes, musulmanes, les églises de réveil, la communauté kimbanguiste, la communauté salutiste, la communauté ngundiste, les comités de marché de Brazzaville, les entreprises privées, de telle sorte qu'ils puissent nous accompagner dans la recherche de solutions envers ces sinistrés, puisque le gouvernement a déclaré faillite.
Le président Denis Sassou Nguesso a récemment appelé le passeur Ntoumi et ses miliciens ninja à se rendre à la justice congolaise afin d'abréger les souffrances des populations du Poule. Nguela Nguesso, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Sénégal, on s'interroge toujours sur le sort de Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui a été élu député, bien qu'il soit en prison pour détournement présumé de deniers publics. Ses partisans et avocats évoquent l'immunité parlementaire pour réclamer sa libération dans les meilleurs délais. Les autorités, quant à elles, jugent que ce débat est préjudiciable à l'indépendance de la justice, qui est la seule habilité à se prononcer sur la question. C'est Dina Abagay.
Depuis 2009, je travaille. Je ne gagne pas ma vie parce que me donne la ville. Je ne vis pas de la mairie. Je ne vis pas avec les moyens de la mairie.
Le 5 mars 2017, le maire de Dakar tenait sa dernière conférence de presse avant son incarcération quelques jours plus tard dans l'affaire dite de la caisse d'avance. Depuis, ses militants se battent pour sa libération. Après avoir épuisé la majorité des recours juridiques possibles, il s'accroche à l'immunité parlementaire que pourrait lui accorder son nouveau statut de député. Babacar Diop est le coordonnateur du mouvement politique du maire de Dakar.
Pour la libération du président Khalifa Boubacar Sall, une fois élu député, il bénéficie de l'immunité parlementaire et nous savons tout ce qu'un député ne peut pas être en prison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu cette conférence de presse pour alerter l'opinion nationale et internationale par rapport à sa libération immédiate. Khalifa Sall, Inch'Allah, comme il avait si bien dit, il sera aux élections législatives et il sera aux élections présidentielles.
Cette position est confortée par l'avocat de Khalifa Sall. Maître Clédor Sirelli a toujours affirmé que l'affaire était loin d'être purement juridique.
Khalifa Aboubacar Sall a été arrêté dans un contexte, dans des circonstances qui sont éminemment politiques, qu'il est maintenu en détention pour des raisons politiques. Et s'il devrait en sortir aussi, tout le monde s'attend à ce que même si on y met la forme, que cela soit pour des raisons politiques.
Ces allégations sont battues en brèche par le ministre de la Justice. Maître Sidiki Kaba affirme que l'affaire Khalifa Sall n'a rien de politique et que ce dernier ne peut pour le moment pas prétendre à l'immunité parlementaire.
Ce n'est pas le député Khalifa Sall qui a été arrêté. Celui qui a été arrêté est quelqu'un qui avait maille à partir avec la justice à partir d'un rapport de l'inspection d'État que vous connaissez. Je ne commente pas le reste. C'est parce qu'il a été mis en prison, il est en train de l'user. Ça a été devant la Cour d'appel, c'est actuellement devant la Cour suprême. Maintenant, l'antériorité des faits par rapport à son élection, c'est un autre problème. Lorsque le débat sera posé, la justice répondra en tenant compte des éléments qui sont l'inviolabilité ou l'immunité d'un député. Mais ce n'est pas un député qui a été arrêté. Retenez-le bien, il y a aujourd'hui un débat pernicieux, médiatico-politique, qui est un harcèlement tendant à violer l'esprit de l'indépendance et la conscience des magistrats pour faire accroire qu'aujourd'hui il y a eu une violation des textes. Il n'y en a pas.
Malgré ses multiples recours devant la justice, Khalifa Sall n'a toujours pas eu gain de cause. En attendant un ultime passage de son cas devant la Cour suprême, le maire de Dakar a peu de chances d'accéder à l'Assemblée nationale si sa situation politico-judiciaire ne connaît pas d'évolution favorable. Seydina Aba Gueye, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le Burkina Faso a perdu Salif Diallo, son président de l'Assemblée nationale, qui est décédé samedi matin à Paris. À l'annonce de sa mort, beaucoup ont parlé d'un baobab qui est tombé, tant l'homme avait marqué la scène politique de son pays, et ce depuis les années 1980. Au micro de Bagassi Koura, le député de l'opposition Alexandre Sankara.
C'était un homme politique redoutable, comme on l'a surnommé. Il était de tous les combats depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Il a participé avec Blaise Compaoré à la prise de pouvoir en 1987 avec l'assassinat du président Thomas Sankara. C'est lui qui a fait Blaise Compaoré, si on peut ainsi parler, sur le plan politique. Il était au devant des choses pour la création du parti de Blaise Compaoré, l'ODPMP, ensuite le CDP. Il était de tous les coups bas contre les opposants, contre tous ceux qui se battaient contre le président Compaoré. Après, il y a eu la disgrâce, il y a eu le divorce entre lui et Blaise Compaoré. Et il est sorti, il a créé le mouvement du peuple pour le progrès MPP avec Roch-Marc Christian Kabore. Et il avait juré qu'il allait faire de Roch-Marc Christian Kabore un président. Et c'est ce qui s'est passé.
Et est-ce qu'on sait pourquoi il n'a pas été lui-même candidat à la présidentielle de 2015?
Non, je crois que, quelles que soient les qualités qu'on lui reconnaissait, l'homme aussi savait qu'il avait des limites. Il savait bien que si c'était lui qui était candidat du parti, ce n'était pas évident. Parce que, c'est vrai, il avait beaucoup d'amis, mais aussi il avait beaucoup d'ennemis. Il ne rassemblait pas large, il n'était pas l'homme du consensus, il était le faiseur du roi, mais lui-même, il ne pouvait pas être roi. Je crois qu'il était conscient de ça.
Alors, on dit que sous Compaoré, c'est lui qui faisait nommer les premiers ministres, qui imposait les ministres importants. Et récemment, on a dit qu'il restait au Parlement et voulait toujours continuer à s'immiscer dans les affaires du gouvernement. Qu'est-ce que vous en savez?
Bon, c'est vrai que il avait un peu cette tendance hein, quand il est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'il avait un peu réorienté son action dans le franc-parler, dans l'interpellation du gouvernement, de telle sorte que on l'accusait même des fois de déstabiliser sa propre majorité. Mais je crois qu'il avait envie, hein, au soir de sa vie, il avait envie de montrer patte blanche, de se racheter et de laisser une très très bonne image de lui à la postérité. Voilà pourquoi il n'hésitait pas à interpeller le gouvernement, il n'hésitait pas à cracher ses vérités, même au premier ministre quand il venait à l'Assemblée nationale. Je crois que c'était pour lui, je crois à mon avis, dans l'objectif de se racheter et de montrer au Burkinabé qu'il n'est pas, comme on le pense, le monstre froid qu'on lui a collé durant toutes ces années.
C'était le député de l'opposition burkinabé, Alexandre Sankara.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.